Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Parlons politique avec Antoine Robitaille et Philippe-Vincent Foisy. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Benoît.
Salut.
Philippe-Vincent.
Oui, allô?
Oui, oui. Non, ben ça a l'air que t'as une intervention à faire avant qu'on parle de politique.
Ah non, mais je voulais juste revenir sur l'entrevue que tu viens de réaliser. Je suis encore un peu sous le choc là, de ce qu'on a entendu. Puis je pense que c'est important que tout le monde l'entende. Parce que quand on parle de vaccination, puis moi j'aime ça débattre avec des anti-vax. Là, des fois, il y en a qui m'écrivent, puis je trouve ça intéressant d'aller dans leur tête puis d'essayer de comprendre. Puis on me dit souvent, ouais, mais c'est les personnes âgées qui meurent, fait que c'est pas grave. Mais la COVID va plus loin que juste la mort. Et ces effets-là, cette COVID longue-là, on n'en parle pas assez dans le travail pédagogique qui doit être fait. Surtout que l'on s'en va dans la vaccination des 5 à 11 ans et que ça va être vraiment difficile de convaincre les gens de se faire vacciner. Et c'est normal, il va y avoir beaucoup de questions. On parle de nos enfants. Le fait de parler des autres effets secondaires, de ce que ça peut nous amener, ce virus-là, c'est hyper important. Et chapeau à cette médecin-là d'avoir le courage de venir te parler aujourd'hui. Mm-hmm. Faut vraiment que cette entrevue-là soit entendue dans toutes les chaumières durant la fin de semaine. J'ai une tante, moi, qui s'est arrivée, qui a encore des difficultés à monter des escaliers. Mm. Et sincèrement, là, la COVID, c'est dangereux, puis pas juste parce que vous pouvez mourir.
Mm. Oui,
moi, j'ai eu la COVID, en tout cas, puis... Heureusement, j'ai récupéré assez vite, mais j'avoue que quand je suis en situation de fatigue ou j'ai fait un demi-marathon fin de l'été, là, puis après ça m'a pris du temps à récupérer. La question est toujours là. Est-ce que c'est la COVID? Est-ce que c'est un effet?
C'est peut-être l'âge pour toi, Antoine.
Oui, c'est peut-être effectivement. Non, mais tu blagues, mais c'est ça, effectivement.
Ouais, non.
Mais aussi, ça se peut, mais... tu te poses tout le temps la question.
C'est vrai.
Et si c'était cette merde-là qui fait que je suis diminué?
Est-ce que ça te rend un peu presque paranoïaque face à ta santé?
Ça, c'était déjà là.
Ça se peut.
Donc, ça a peut-être accentué des dysfonctions ou des obsessions.
Bon, oui. OK.
Mais c'est vrai que quand tu dis, écoute, ça peut être ça la conséquence, là. Prenez-en conscience. Là.
Effectivement, souligner le courage de la docteure Bérard, là, de prendre la parole et de s'afficher avec... tu sais, il faut quand même le faire, là, puis de prendre l'énergie dont elle dispose dans une journée... Puis faire une entrevue comme ça, là, moi, je pense qu'elle va être sur le dos pour le reste de la journée.
C'est terrible.
Non, mais c'est ça. Là. C'est comme si elle faisait un 12 heures avec 5-10 enfants dans une garderie, dans un CPE, là, donner cette entrevue-là. Là.
Ouais, ouais.
En termes d'énergie, là, mais juste pour que vous compreniez ce que ça représente. Moi, ça me fascine et je la remercie grandement d'avoir eu ce courage-là aujourd'hui.
C'est bon, c'est bien dit. Justement, les éducatrices, Antoine, un mot?
Ben, on nous dit toujours, on négocie pas sur la place publique, on négocie pas sur la place publique, mais c'est précisément ce que le gouvernement fait actuellement. Ils ont considéré que c'était plus payant faire ça, et c'est plus payant, faut le dire aussi, pour les éducatrices pour l'instant, parce que Québec propose une autre bonification. Une semaine après avoir dit, on va vous monter vos salaires de 12 à 17 %, là, on est rendu qu'il y a une bonification salariale qui pourrait atteindre jusqu'à 20,22 % des éducatrices qualifiées. Donc, environ 60 % d'entre elles sont touchées par cette augmentation salariale. C'est évidemment le lendemain de l'annonce d'un plan important par le premier ministre Legault et le ministre Lacombe qui ont annoncé hier là, que tous les enfants du Québec auront droit à une place en garderie d'ici 4 ans. Hein? Je l'avais dit, 4 ans.
Ouais.
C'est pas avant les prochaines élections, comme plusieurs le croyaient après le discours d'ouverture du premier ministre. Alors, c'est 37 000 places, évidemment, qui vont être créées. Puis là, ben, on se dit, il faut continuer d'ajouter des sous. D'après ce que j'ai compris, là, les principaux syndicats concernés ont vraiment bien accueilli l'annonce de ce matin de Sonia Lebel de justement ajouter une autre bonification, je dirais unilatérale. C'est ça qui se passe.
Ben
puis
oui.
On verra s'il va y avoir contre-offre de la part des syndicats qui vont s'entendre. Puis nos éducatrices vont être mieux payées et c'est une très bonne chose.
Est-ce qu'on a eu un syndicat qui a réagi?
C'est le dernier échelon, là.
Mais est-ce que...
Le 20%, c'est juste pour le dernier échelon, là. Pour les,
oui,
les
c'est,
9 premiers,
jusqu'à 20.
On est sur le... Exact, c'est ça.
Okay.
Il y avait un jusqu'à.
Jusqu'à. Et là, tu as un syndicat qui a dit, hey, pas pire comme proposition. Est-ce que c'est, j'ai bien compris?
C'est ce que j'ai entendu tantôt, oui, rapidement, avant d'entrer en ondes.
Moi, je suis érotisé.
Oui.
Attention.
Oh, musique, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Oh, il y a un syndicat qui dit oui. Ah, vrai. Viens te coller. On va aller manifester ensemble. Tiens, ma pancarte, je suis fatigué. Mathias, un mot sur mafia. Quoi?
Non, mais j'allais dire, c'est bien que le gouvernement a réussi sa négociation en public. Tu sais, quand on dit on négocie pas en public, normalement, c'est parce que on veut pas que l'opinion publique s'en mêle ou on veut jouer, on veut garder certaines cartes. Et là, on les a mises en public parce qu'on croyait sérieusement qu'on avait perdu la bataille de l'opinion publique jusque-là. Et Sonia Lebel, en annonçant ces offres-là, en montrant son jeu, montre au public qui appuyait grandement les éducatrices que le gouvernement n'est pas chiche et force la main ici à nouveau aux éducatrices qui, jusque-là, avaient pas mal le gros bout du bâton.
Mm-hmm. Bon, tu veux aussi parler, Antoine, de la proposition de la police envers du SPVM envers la mafia?
Oui, c'est hier, là. Je veux revenir là-dessus parce que je trouve c'est intéressant, puis c'est un peu une nouvelle cachée de la semaine. C'est-à-dire que le bureau d'enquête a démontré que le SPVM est allé voir la mafia pour dire s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez calmer le jeu à Montréal concernant les fusillades, hein? Nous aider à calmer le jeu. Et la question a été posée à tous les partis d'opposition hier, puis tous les partis sont indignés de ça, sauf le Parti libéral du Québec. Et j'aimerais qu'on écoute le début de la réponse d'André Fortin à la question de Nicolas Lachance du bureau maintenant parlementaire sur ce sujet-là. On l'écoute.
Qu'est-ce que vous pensez de ça que la police demande l'aide de la mafia?
C'est peut-être particulier, mais de faire un appel à l'ensemble des citoyens, de faire un appel à l'ensemble des acteurs à Montréal, je pense que tout le monde doit prendre conscience du fait que les Montréalais sont inquiets de leur sécurité ces jours-ci. De relayer cette inquiétude-là à tout le monde, de s'assurer que tout le monde en fait le maximum. Moi, j'ai aucun problème avec le fait.
Tu vois, et là, il était fâché, les libéraux, qu'on ait fait un titre. Il était fâché qu'on ait fait un titre. Ben, tu sais, même la mafia a son rôle à jouer.
Positif.
Selon les libéraux.
Un rôle
ben oui,
positif.
C'est ça.
Ah oui,
mais tu sais,
okay.
T'écoutes la réponse. Puis là, c'est juste quelques secondes d'une réponse qui dure à peu près une minute. Il dit, tous les acteurs, si on l'a entendu, il dit, tout le monde doit être concerné. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Peu importe de qui il s'agit, dit-il un peu plus loin, c'est le devoir de tout le monde. Mais là, c'est une réponse surprenante de la part d'André Fortin. Il dit, oui, c'est bien correct, oui, faut parler même à la mafia. Plus tard, dans le couloir, on a peut-être un peu mieux compris. C'est Geneviève Guilbeault qui a dit, ça fait partie des techniques d'enquête, des fois, de mettre le crime organisé dans le coup. C'était peut-être une réponse un peu plus habile. Mais je voulais le souligner.
Est-ce que dans l'opposition? Est-ce que M. Fortin, parce que c'était une réponse de gouvernement, là, c'était une réponse, il est dans l'opposition, là. Il y avait une balle en or pour dire, ça n'a pas de bon sens qu'on soit rendu là, puis qu'on soit obligé de parler à la mafia, puis le gouvernement fait rien pour protéger les rues de Montréal. La CAQ a une faiblesse sur cet enjeu-là. Ça continue de tirer, puis ça n'arrête pas. Le Parti libéral a une chance d'avoir enfin un sujet sur lequel il peut attaquer le gouvernement, et il fait pouette-pouette à ce point-là.
C'est comme aller voir Al Capone dans les années 30 à Chicago puis dire peux-tu nous aider pour contrer la prohibition. Tu sais c'est
non mais
ça a pas non, pis,
mais,
que c'est que tu veux
mais à un moment donné quand t'as pas le choix puis ça se met à se tirer
c'est
dessus partout puis que t'as pas le contrôle que c'est grave puis qu'il y a des gens qui se font
tuer par
des
balles perdues. T'es la police ça camouille.
Prends-le
le contrôle. Ben, rentre dans les places puis arrête les crapules, les bandits. Tu sais
mais
qu'ils sont.
Pourquoi ils le font pas?
Il paraît que ça a commencé, là, quand même.
Ben, j'espère.
C'est ce qu'on nous dit
aujourd'hui. J'espère bien. Et en passant, hier, au face-à-face, là, j'en ai parlé avec Alexandre Dubé tantôt. Je sais pas vous autres, mais pour Montréal, j'ai pas entendu de solution claire proposée par personne, entre autres sur les fusillades. J'ai rien entendu. Je l'ai-tu raté?
Je sais pas pour toi, mais il me semble que Denis Coderre, qui devait sortir fort sur ce sujet-là, a été presque celui qui était le plus faible là-dessus, là. Il n'y a pas eu de gagnant, mais M. Coderre, à part dire qu'il allait avoir du leadership et qu'il fallait qu'on se parle, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Puis Valérie Plante, c'est assez compliqué aussi de comprendre sa position. M. Coderre, à un moment donné, aussi, il va falloir qu'il arrête de dire que Valérie Plante veut définancer la police. Il y a eu des discussions à Projet Montréal auprès de militants, mais c'est pas ça. Mais elle non plus, là, n'avait pas d'importante solution. Là.
Non, non, moi, elle m'a dit qu'elle était ouverte à la discussion sur le définancement du SPVM. Non, non, mais je suis désolé, elle m'a dit ça, là, ouverte à la discussion.
Quand? Parce qu'il me semble que son discours a évolué là-dessus, non?
Le discours a évolué, mais la dernière fois, elle est venue avant la fin des frontières, là, l'année passée, puis elle m'avait dit ça. Elle est ouverte à la discussion des financements de la police.
Non, mais depuis ce temps-là, elle a clarifié son discours, vraiment.
Ben, je sais pas, oui. Je sais pas, peut-être qu'elle va mettre Will Prosper en responsable de la situation des fusillades.
On va devoir gagner d'abord.
Je comprends pas que ça soit encore soulevé ici au Québec. C'est tellement américain comme problématique de financer la police. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vit ici.
Bon, allons à Ottawa. Là. Pas d'assurance emploi si tu perds ta job parce que tu n'es pas vacciné, Philippe Vincent.
Oui, ben la ministre de l'Emploi, qui demeure ministre de l'Emploi, on va voir jusqu'à mardi prochain, nous a dit...
Est-ce qu'il y a des élections? Dans une entrevue. Il paraît qu'il y a eu des élections, hein?
Au fédéral?
Oui.
Je sais pas. C'est pour ça que ça siège pas. Parce qu'il me posait la question, justement, pourquoi ça siège pas.
Ça.
On avait juste eu des élections municipales.
Ouais, il se repose des élections, ça a été dur. Alors, Philippe Vincent.
Non, mais c'est ça, dans une entrevue à l'émission Power and Politics de CBC, elle a été claire là-dessus. Là, on l'avait entendu, on nous l'avait dit, là, vraiment, ça a été assez clair, justement, pour les fonctionnaires, mais les autres, qui perdraient leur emploi parce que ils ne sont pas vaccinés. C'est pas comme si vous perdez votre job parce qu'on coupe votre poste ou vous faites renvoyer. L'assurance emploi a des critères bien précis, bien clairs. La PCRE ne sera plus là non plus. Alors, avis à ceux qui ne seraient pas vaccinés, vous n'aurez pas là cet échappatoire pour vous en sortir avec un salaire ici et là. Après, on rappelle quand même que du côté fédéral, c'est vraiment juste une attestation, là. Un petit clic sur une petite case, puis on ne demande même pas votre passeport vaccinal pour savoir si vous pouvez rester dans la fonction publique.
C'est beau, la confiance.
Ben oui.
Bon, c'est beau. Sois pas cynique et pisse vinaigre tout le temps, là. C'est une belle approche.
Je suis pas. C'est beau, ben oui.
Bon, parfait. Ben oui. Puis on peut voyager sans risque, là.
Oui, ben on a enlevé cet avis aux voyageurs. Hein. Depuis le début de la COVID, on disait que les voyages non essentiels n'étaient pas recommandés à l'extérieur du pays. Et là, on est revenu à une formule plus normale, là, des avis aux voyageurs. On recommande encore d'éviter les croisières, mais on dit que si vous êtes pleinement vacciné, il n'y a plus un risque, là, à avoir des voyages non essentiels. Ceci dit, ça dépend du pays où vous allez. Donc, consultez quand même le site du gouvernement du Canada, le voyage.gc.ca, pour voir où vous allez. C'est sûr qu'il y a encore des pays où, par exemple, au Maroc, on dit faire preuve d'une grande prudence. Mais on n'est plus en ne pas du tout voyager, ce qui était la vie depuis un bon moment, là, depuis quasiment le début de la pandémie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Retourner en Chine, Benoît.
Ah, oh, ça, tu vas y aller en jet privé, mon Johnny. Sois pas inquiet.
Comment t'as deviné?
Le jet privé des démarrais. Penses-tu qu'on va te mettre avec le bétail? Mais avancer en arrière.
Ben, c'est dangereux, il y a des virus là-dedans.
touche pas à ça, faut que tu te protèges. Et on a le temps parce que Jean-Charles n'est pas là encore. Un mot sur le patrimoine, Antoine?
Position surprenante de Catherine Dorion sur la Maison Chevalier. La Maison Chevalier, là, quand vous prenez la traverse Québec-Lévis, là, ben Lévis-Québec en l'occurrence, vous arrivez à Québec, c'est une des premières maisons patrimoniales que vous voyez. Elle est superbe. Elle a été construite au 17e siècle. Elle appartient au gouvernement du Québec ou à l'État du Québec. Moi, on dit qu'on se mêle entre État et gouvernement ici. Ouais. Disons-le, à l'État du Québec depuis 1962. Elle a été rénovée de fond en comble. Ben là, elle vient d'être vendue au Tanguay, hein, le groupe Tanguay ici à Québec, Ameublement Tanguay. Et l'ancienne ministre de la Culture, Agnès Maltais, du Parti québécois, a fait une manifestation pour s'opposer à ça. L'ancienne ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, du Parti libéral, a déposé une pétition là-dessus, aussi avec Pascal Bérubé, puis a déposé une motion hier. Étonnamment, Catherine Dorion a dit, ben finalement, ça aurait pas dû se passer de même, mais c'est bien correct qu'on le vende au privé. Et là, ben, je l'ai eu en entrevue hier et j'ai posé la question, quelle mouche l'a piqué? Je sais pas si on a le temps d'écouter.
On n'a pas le temps d'écouter.
On n'a pas le temps,
mais,
bon.
Mais ben, qu'est-ce qu'elle a répondu?
Ben, elle dit, ça aurait dû se passer mieux que ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le privé qui va reprendre ça, puis c'est une bonne famille aussi. C'est tellement surprenant de la part de celle qui monte toujours aux barricades, qui là, dit, ah non, ça prend une position nuancée, puis même qu'elle a été saluée par la ministre de la Culture actuelle, Nathalie Roy.
Mais au moins, la Maison Chevalier va être bien meublée par ameublement Tanguay. En tout cas. OK, hey, à lundi. Merci, Antoine. Merci,
Pierre. Bonne
semaine. Salut.